Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
La mort vaincue. Et si je l'ai choisi, ce titre, il m'est suggéré, pour ne pas dire imposé, par le texte de l'Épître aux Hébreux, au verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Je me suis laissé, moi le premier, impressionné, arrêté, par cette espèce d'intermède sur lequel nous allons revenir, et j'ai la pensée que, dans l'inspiration de l'Écriture, ce petit temps d'arrêt a aussi pour nous son importance. J'aimerais moi aussi faire un temps d'arrêt, avant de me mettre à l'écoute de ce que dit le texte, et vous suggérez un bref retour en arrière. Parce que dans l'expression « ils sont tous morts » s'inscrit bel et bien le nom, la vie de ceux dont nous avons parlé, et parce que ce qui en est dit nous laisse avec une interrogation, je ne veux pas prendre la liberté de ne pas répondre à certaines questions que vous vous posez certainement. Et j'aimerais revenir sur un aspect particulier qui m'apparaît très important. Ce saint livre dans lequel nous plongeons nos regards, que nous appelons la Bible, les livres que nos frères juifs appellent la Torah, eh bien, ce saint livre, je pense que nous l'avons clairement à l'esprit, n'est pas un livre de religion, comme d'aucuns le croient. Ce n'est pas un livre de loi, de préceptes, de règlements, et de lois, de préceptes et de règlements figés dans la lettre de ce livre. C'est, si j'ose dire, le contraire. Quand même, il y a effectivement des lois, des préceptes, des ordonnances, mais en réalité, si je veux le définir tel qu'il se présente à nous, il nous communique, ce livre, une double révélation, et non pas une religion. Et c'est de cette double révélation qu'il nous rend compte dans les 66 livres qui le constituent. Et cette révélation est là pour cadre une double histoire. L'histoire de notre humanité, bien sûr. Et c'est cette première révélation que nous apporte ce livre. L'histoire d'une humanité dont on peut dire, en vérité, qu'elle a quelque chose de dérisoire, de tragique. C'est la révélation d'un ratage constant, renouvelé, de génération en génération. Et un ratage tel que un des auteurs de ces saints livres voulant dire S-A-I-N-T-S, et non pas cinq, eh bien, l'un des auteurs de ces saints livres dit un refrain à tout ce qu'il rapporte, vanité des vanités, tout est vanité, vanité des vanités, tout est vanité. Parce qu'effectivement, l'histoire humaine, menée par les hommes, a quelque chose de dérisoire, de vain, oui, de tragique. Et d'autres paroles de ce livre le disent à leur manière. Savoir que nous sommes finalement de la poudre retournant à la poudre. Et quand on voudrait résumer tout ce que le dessein des hommes réalise, ça pourrait se traduire par un mot, ruine. Et quand on regarde au travers de l'histoire que les hommes ont écrite, ont faite, ont menée, ce qu'il en reste, ce sont des ruines, ensablées souvent, et qu'on retrouve quand on creuse dans ce sable, ruines misérables, ruines traduisant la mort de tout effort humain, de toute perspective, de toute possibilité humaine. Et pourtant demeure vrai la parole qui s'inscrit à la première page de ce livre. Savoir que cet homme avait reçu en gérance cette création. Alors ce qu'il en fait dans sa gérance, c'est de la poussière qui retourne à la poussière, des efforts qui finissent par être des ruines. Tout ce que l'homme fait, tout ce qu'il imagine, envisage, et finalement par son génie réalise, accomplit, finit par mourir entre ses mains, et il travaille lui-même, apparemment, à sa propre ruine. Et c'est là le second aspect de ce que nous apporte cette révélation, c'est que l'homme est dans une vie de jugement, et ce jugement se traduit par un seul mot, la mort qui l'accompagne, et qui finit par le maîtriser et être son vainqueur. Bien sûr que les hommes ne veulent pas en entendre parler, bien sûr qu'ils s'irritent quand on le leur fait saisir, et peut-être que d'aucuns en m'écoutant pourraient se dire « Mais pourquoi est-ce qu'il revient là-dessus ? Ce n'est pas plaisant, comme si... dans une journée comme celle-ci, on n'avait pas autre chose à regarder qu'une réalité morbide, mortelle. Oui, même dans ce livre, nous est rapportée cette irritation. Volontairement, dit la deuxième de Pierre, on oublie cette ruine, et les hommes ne veulent pas savoir que, déjà une première fois, toute cette création a subi non seulement la mort, mais ce qui en est l'expression réelle, véridique, le jugement que l'homme attire sur lui par son propre comportement, sa propre vision des choses, sa volonté d'autonomie par rapport à celui qui a créé tout ce qui existe. Mais j'ai hâte d'en venir quand même au véritable contenu de ce livre. Car s'il révèle cet aspect des choses que l'homme n'aime pas entendre, et s'il le lui rappelle en beaucoup de ses pages, en même temps, il ne cesse de lui redire que ce n'est pas là le dessein qu'avait Dieu en créant tout ce qui existe, en créant l'homme en particulier et en lui confiant cette création. Au contraire, il avait et il a pour dessein de tirer de cette mort la vie, de transformer cette mort en vie et de ramener l'histoire de l'homme, mais cette fois menée non plus par l'homme, mais par Dieu et par l'homme soumis à Dieu. Il veut faire de cette histoire une histoire de vie. Et c'est bien là toute la perspective dans laquelle s'inscrit la révélation. C'est l'histoire que Dieu vient mener dans ce monde de mort pour en changer la réalité en une histoire de vie. Et l'homme qui l'écoute, qui l'entend, qui se saisit de ce que Dieu dit et de ce que Dieu veut, l'homme qui le croit, l'homme dans la foi, devient à la fois le bénéficiaire de ce dessein de Dieu et l'instrument. Et c'est pourquoi, dans ce chapitre 11 des Hébreux, nous avons ce développement de toute une histoire de vie. Et au lieu que, regardant en arrière, nous allions, si j'ose dire, creuser dans les sables où l'histoire s'est ensablée et n'y trouver que des ruines, l'Épître aux Hébreux, dans ce chapitre 11, nous a fait faire un retour en arrière dans la préhistoire en mettant en lumière, en révélant ce qu'elle a à nous en dire au travers de quatre figures dont nous avons parlé longuement. D'abord, si j'ose dire, la figure de Dieu, inconnaissable, apparemment, mais qui se fait connaître par la parole, et qui un jour, vous le savez, quand même l'Épître aux Hébreux ne le dit pas expressément, mais elle y conduit, prendra la figure de celui qui est la parole faite chair, savoir Jésus-Christ. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Je dis la parole de Dieu, et tous les « je suis » de Jésus ne sont que l'accomplissement de ce que Dieu a dit. C'est pourquoi, première figure, Dieu, au travers de sa parole créatrice, accomplissant ce que dans son dessein d'amour, de vie, il veut pour l'homme et pour la création tout entière. Seconde figure, il vous en souvient, c'est celle d'Abel. Abel, dont le nom lui-même est plein de signification, puisqu'il signifie « souffle ». Oui, l'homme n'est qu'un souffle. Il n'est qu'un souffle de Dieu. Et le malheur, c'est qu'oubliant qu'il est le souffle de Dieu, et qu'il peut être rempli de cet esprit de Dieu, il se sépare de son Créateur pour devenir mort, ruine et perdition. Par là même, et c'est bien le sens qu'il faut rappeler, Abel, c'est non seulement le souffle de Dieu, mais c'est la victime de ce qu'il est lui-même, par sa nature. en solidarité avec tous les autres et la méchanceté qui nous habite nous revient contre, si j'ose dire, au travers des autres. Et Abel est à la fois cette créature de Dieu, victime de cette histoire, de ce que l'homme fait contre lui-même. Il est la victime de Caïn, son frère. Avec un même père, voilà ce qui lui arrive au travers de son frère. La mort qu'il porte en lui, son frère la lui donne, la lui révèle en quelque sorte. Et la révèle à toute la famille et en remplit d'horreur le cœur du Créateur. Et puis dans cette préhistoire, il y a la figure d'Enoch, qui, dans toutes ces générations, forgées les unes après les autres, et dont le refrain premier et dernier, c'est finalement qu'après avoir engendré, il meurt, et bien soudain éclate l'histoire que Dieu vient inscrire, non plus seulement au travers du sang de Jésus qui parle mieux que celui de l'Abel, parce que celui d'Abel criait « vengeance, victime », alors que celui de Jésus dit « pardon, grâce et vie », eh bien, ce troisième personnage, savoir Enoch, va être l'expression de cette victoire réalisée. La mort n'a pas pu le prendre, c'est Dieu qui l'en a sorti en l'enlevant, en le dérobant au pouvoir de la mort. Et vient la quatrième figure dans ce retour en arrière, savoir celle de Noé, qui va connaître le jugement qui ne l'atteint plus lui seulement, mais toute la création, parce que Dieu va recommencer dans sa grâce et sa bonté, une histoire qu'il veut cette fois définitive, éternelle, sans la part du péché et de son salaire, la mort. Alors Noé va être l'expression de cette grâce de Dieu qui permet à l'homme, par la foi, de passer au travers du jugement, de passer au travers de la mort et de débarquer, de déboucher dans une création que Dieu restaure. Voilà toute la perspective de la révélation inscrite dans ce livre, au travers de ces quatre figures, et toute l'histoire à laquelle ainsi nous sommes rendus participants, dans l'espérance, dans la certitude, dans la révélation que nous apporte la parole de Dieu. Ce qui me réjouit et qui va certainement soulager beaucoup d'entre vous, c'est que dans ce récit, beaucoup d'entre vous penseraient, on parle des hommes. Abel, Enoch, Noé, puis la femme. Aucune part à tout ça? Vous avez le meilleur, mes sœurs. Et je crois même que c'est la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître s'est arrêté, a même interrompu le récit de l'histoire d'Abraham qui, jaillissant dans cette histoire comme le père, le tronc visible de toute l'histoire et de la démonstration de l'histoire de Dieu, oui, il s'interrompt pour dire, pardon, je parle d'Abraham, mais, je n'oublie pas Sarah. Elle est pleinement participante, l'épouse, la femme, à cette histoire de vie. Elle en est même l'instrument. Cela avait été annoncé par Dieu et sa parole dès le commencement, puisque à l'heure où, séparé de Dieu, l'homme a cru mener sa vie autonome et a goûté aux fruits amers de cette séparation, Dieu est intervenu le premier pour le rendre attentif à ce qu'il allait devenir. Et le premier mot de Dieu à cet homme dans son histoire dérisoire et tragique, c'est « Adam, où es-tu ?» Ce qui veut bien nous rappeler que Dieu est celui qui nous cherche, celui qui vient au secours de sa créature en perdition. Et quand il trouve son vis-à-vis, savoir Adam et Ève, c'est à elle qu'il s'adresse d'abord, en lui faisant une promesse merveilleuse, savoir que, à cause de l'intervention de Dieu, la postérité qui naîtrait d'elle aurait la victoire sur toute cette condition misérable, détestable, échapperait au jugement. La postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Nous n'en avons pas dit grand-chose de celui-là, parce que l'Épître, dans ce que nous en écoutons, ne nous donne pas l'occasion de nous exprimer à ce sujet, mais effectivement, l'homme a un ennemi, c'est Satan. Alors Dieu assure, dès le premier instant, à cet homme qu'est Adam et à sa femme, qu'ils auront la victoire sur cet ennemi et qu'ils vont devenir, et elle en particulier, l'instrument du salut par la postérité qui naîtra d'elle. Et dans le devenir de cette parole, c'est la figure du Christ qui s'inscrit. Mais ce que je voudrais, pour ma part, retenir ici, et la place que donne l'auteur de l'Épître à Sarah vient de nous le redire, c'est que le salut que Dieu nous offre passe au travers de l'homme, mais inséparablement de la femme. C'est au travers de la famille, du couple, que se traduit la vie que Dieu vient rendre à l'humanité. Alors il l'inscrit dans le fait de la naissance d'un enfant issu de ce couple. Et l'Écriture insiste en disant que cela n'est pas naturel seulement. Parce qu'il n'y a que la nature, pardonnez-moi de le dire en ces termes, on enfanterait dans ce monde pour la mort. Pour ne pas dire, nos enfants ne seraient que de la chair à canon. Et Dieu sait si ils ont été souvent cela. On enfanterait des victimes, on aurait même horreur de la perspective d'avoir à mettre au monde des enfants dans une existence, dans une perspective aussi dérisoire, tragique, voire détestable. C'est pourquoi le texte insiste. Il dit, c'est par la foi que Sarah fut rendue capable. Par la foi en ce que Dieu promet, par la foi en ce que Dieu dit, la vie possible, elle n'est pas simplement d'enfanter. Quand même, c'est là une des grâces qui est faite à l'homme, une des joies qui accompagne son existence. Mais encore faut-il que cet enfantement soit marqué du dessein de la volonté de Dieu. C'est par la foi D'où un aspect qui est inscrit dans ce tronc de la vie d'Abraham et qui doit accomplir toutes les promesses de Dieu, puisqu'à partir de ce tronc, l'arbre va pouvoir porter par les branches beaucoup de fruits. Eh bien, dans ce tronc, l'auteur de l'épître s'est arrêté pour dire une vérité fondamentale, essentielle, savoir que c'est Dieu qui doit présider encore et toujours. C'est par l'intervention de Dieu que cette vie qui naît, que nous sommes capables d'engendrer ou d'enfanter, serait sans lendemain, serait dérisoire, si ce n'est pas dans la dépendance de lui que se forme le couple. Mariez-vous selon le Seigneur. Et dans la dépendance de lui que les enfants doivent être conçus, accueillis, élevés, accompagnés. C'est par la foi qu'il fut rendu capable. Et sans insister, mais parce que c'est là sous nos yeux, l'auteur souligne, malgré son âge, usé de corps, et cela concerne l'un et l'autre, et nous sommes usés de corps avant l'âge, et déjà en naissant, nous portons la marque de notre vieillissement, puisque dès l'instant où nous paraissons, on ne fait que de vieillir. Alors, grâce soit rendue à Dieu, qui inscrit là sous nos yeux la vraie réalisation de son dessein au travers de la vie possible qu'il vient donner et rendre. Est-ce que j'ose ouvrir une parenthèse et rappeler dans quel temps nous vivons et dans quelle sottise on peut s'engager quand tant de femmes, certainement souffrantes à cause de la désobéissance de l'homme, tant de femmes souffrantes parce que tenues dans l'ignorance de leur vraie vocation, pensent, elles, réussir la vie, leur vie, si indépendamment de l'homme, elle se réalise. Car c'est le grand refrain à l'ordre du jour. Je ne veux plus me marier, je veux bien avoir les enfants puisque il faut encore que ça passe par moi, mais plus vite je les lâcherai, mieux je me réaliserai. Car à l'image de l'homme, la femme veut être autonome, indépendante, elle veut se réaliser comme l'homme se réalise séparé de Dieu. Quelle folie! Je referme la parenthèse en insistant sur le fait que Dieu donne au couple, à l'homme et à la femme, à leur travail, à leur amour, à leur raison d'être, de vivre, à leur raison de créer une famille, une toute autre perspective. C'est en vue de la vie et non pas du travail, en vue de la vie et non pas de l'argent que le travail va rapporter, en vue de la vie que Dieu mène dans ce monde, car il mène une drôle de vie, notre Dieu, dans ce monde. Une vie de sagesse par rapport à la folie de la vie des hommes, une vie d'amour et de grâce par rapport à la vie insensée et folle. Oui, il y a les choses premières. Oui, il y a la réalité dans laquelle nous sommes encore. Et comme le disent avec une certaine sagesse, parce qu'il y a toujours une part de vérité, même dans ce que l'homme pense, imagine et déclare. Toutes choses, disent-ils, demeurent dans le même état depuis le commencement du monde, où il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. On est toujours dans la même réalité. Et vous me direz, mais dans cette réalité, les hommes et les femmes de foi dont il est question, et dans la préhistoire comme dans l'histoire actuelle, Adam ou Ève, Abraham, Sarah, ou Julie et Ernest, ils meurent, ils sont tous morts. Pardon. Ils parlent encore. Ils vivent déjà. Ils sont étrangers voyageurs. Ils acceptent que ce monde passe. Pourquoi ? Parce qu'avec Dieu, ils sont d'accord que ce monde, dans sa réalité actuelle, est marqué de la mort et du jugement au-devant de laquelle elle nous conduit inexorablement. Mais Dieu a inscrit dans notre corps de mort, dans cette humanité de mort, inscrit dans toutes ces tombes qui, en quelque sorte, sont les lieux les plus sûrs de ce monde. Car c'est la seule certitude qu'on puisse avoir de ce monde, dans ce monde, c'est qu'on retourne à la poudre. Eh bien, dans cette certitude-là, Dieu est venu en inscrire une autre. Tu vis. Et pourquoi peuvent-ils dire cela, ceux dont il est question? Parce que, à la manière d'Abraham et de Sarah, ils les ont vus. Et c'est le dernier point que je voudrais souligner dans cette première partie de mon message, avant d'écouter ce que Dieu va nous dire encore d'Abraham. Abraham et Sarah, ils ont vu ce que Dieu leur a dit. Eux seuls? Non, je crois que tout croyant qui s'est laissé saisir par l'esprit, convaincre, éclairer par la parole de Dieu, il croit, mais il voit. Il découvre tous les jours que ce que Dieu dit est vrai et qu'il n'y a pas une parole, une promesse de Dieu dont on ne puisse éprouver la densité, la réalité, la vérité. Il y a la vérité faite chair en Jésus-Christ, mais il y a la vérité faite chair dans nos propres vies, dans ma propre vie. Le Saint-Esprit est venu rendre témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu, et toutes les paroles que Dieu promet, il nous demande de les éprouver pour en découvrir la réalité. Et c'est pourquoi même si nous allons, à cause de notre nature, vers le dépouillement de cette nature mortelle, alléluia, dans le nouveau ciel, je n'aurai plus de lunettes, je n'aurai plus de vieillissement. Alors je me réjouis de ce que la mort emporte, ce qui n'est que momentané, passager, et j'en serai, comme disent les hommes de foi, délivré, délivré de ma chair, mais alors engagé dans une vue des choses que je salue à l'avance parce que je l'éprouve, je le vois, je le vis dans ma vie, savoir que ce que Dieu dit est vrai, qu'il y a une vie nouvelle en nous, que nous sommes de nouvelles créatures et que nous nous avançons de jour en jour en croissant dans la foi, en grandissant dans l'assurance, la connaissance, la certitude, et en portant déjà des fruits que nous retrouverons démultipliés dans la vie éternelle. Car la démultiplication des promesses de Dieu, elle n'est pas seulement dans ce qui est dit là, savoir que la postérité qui va naître d'Abraham et de Sarah sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les sables de la mer. Et c'est vrai que quand je me retourne dans l'histoire, je découvre que il y a une multitude de croyants que nous allons retrouver, et ils forment, ils constituent une famille immense. Mais ce qui est vrai aussi, et c'est pourquoi je peux le lire sans frémir, mais en me réjouissant, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu la totalité des choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. C'est pourquoi ils acceptent d'être étrangers voyageurs sur la terre. Ils n'ont pas honte d'être appelés enfants de Dieu. Et Dieu n'a pas honte de leur témoignage, même fragile, faillible parfois, parce qu'il sait qu'ils sont encore en devenir, encore en croissance, encore en incertitude qui doivent devenir des certitudes, et chaque jour qui passe, chaque occasion de vivre est une occasion de vivre mieux, de réaliser plus pleinement la promesse de Dieu. Et puis vient la dernière partie, et je me réjouis profondément de l'écouter avec vous. Parce que les versets 17 à 19 vont être comme l'achèvement de ce que nous avons appelé le tronc, à partir de quoi les branches viendront. Avec la remarque immédiate que souvent dans un arbre, des branches sont cassées. Et puis des branches sont coupés. Et ce qu'il y a d'intéressant, vous le savez, c'est que dans en arboriculture, ce sont les branches qui sont ramenées vers la terre qui portent le mieux leurs fruits. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le chrétien est le plus humain des humains. Dans l'humilité qui, vous le savez, a comme racine, avec le mot terre, l'humus. Car l'humilité, c'est ce qui nous ramène à l'humus. C'est de connaître notre vraie condition pour laisser alors Dieu, dans cette humilité, porter le fruit qu'il désire voir porter dans nos vies. Et c'est ainsi que l'arbre, à partir de là, a de l'importance quant aux branches. Et si nous en avions la possibilité, nous nous intéresserions vivement aux branches que nous sommes par rapport à nos frères juifs, qui, comme le dit le texte, ont été momentanément retranchés, mais qui demeurent pour l'heure où Dieu les rendra à leur véritable destinée. Donc si nous ne nous intéressons plus à partir de maintenant aux branches, et que l'auteur de l'épître nous ramène encore une fois au tronc, c'est que c'est là qu'est l'important de notre vie. Ce sont dans les racines, puis dans le tronc, que se trouve tout ce qui va nous permettre de vivre. Alors, revenons à cette partie-là. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Ils pensaient que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et cela nous ramène à une page, comme nous l'avons fait chaque fois, de l'Ancien Testament, et cette fois c'est dans le chapitre 22 de la Genèse. Alors dans cette dernière partie de notre étude, nous allons écouter ce chapitre 22 et le commenter au fur et à mesure que nous le lirons. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham ?» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria. » Et là, offre-leur un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Parole surprenante, parole même scandaleuse, parole cruelle, où on peut faire tous les commentaires que notre cœur humain, notre intelligence humaine pourrait faire en révolte contre Dieu. Car c'est révoltant, c'est vrai. C'est vrai que c'est révoltant. Ce que Dieu dit, ce que Dieu demande. Et par là même, il nous apprend que dans ce monde, il nous apparaît Dieu. Lorsque nous nous engageons dans la vie de la foi, souvent comme un Dieu révoltant, un Dieu dont les exigences sont absurdes, folles, sans raison, sans fondement, ça tient pas debout. C'est de la folie de croire ce que Dieu dit, d'entendre ce qu'il ordonne. Qui pourrait accepter cela? Oui, Paul le dira, c'est de la folie. C'est de la folie. Reste à savoir si nous reconnaissons notre folie. Et si peut-être un peu plus humblement, revenant à notre humus futur, à notre poudre retournant à la poudre, nous pourrions agréer une fois de renoncer à nos propres sagesses, à nos propres raisonnements, pour écouter ce que Dieu dit. Et c'est là la première caractéristique d'une vraie foi. Et je dis tout de suite que nous allons en voir sept en conclusion. La première caractéristique d'une vie dans la foi, c'est de prendre connaissance de la parole de Dieu. Si incompréhensible puisse-t-elle nous apparaître, si insensée et si folle puissions-nous la juger, il n'en reste pas moins que c'est la parole de Dieu. Il dit, crois-tu ce qu'il dit ? Abraham, notre père, qui a vu une multitude avec Sarah naître de lui, s'entend dire que le fils qui est déjà né par miracle, qu'il tient et qu'il chérit comme son bien-aimé, car qu'y a-t-il de plus précieux au monde qu'un enfant ? Abraham s'entend dire, « Eh bien, donne-le-moi. » Donne-le-moi, offre-le-moi. Je prends connaissance de ce que tu dis, Seigneur. C'est impensable ce que tu dis. C'est irrecevable ce que tu dis. J'en prends connaissance. Mais Abraham est homme de foi. Il est notre père dans la foi. Verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui deux serviteurs, son fils Isaac. Et le texte ajoute, il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. La connaissance, quand elle est réelle, la foi, quand elle est réelle, conduisent à la pratique et à une pratique qui tient compte de tout ce que Dieu a dit. Ah, je dois faire un sacrifice. Alors, je prends ce que tu as dit, l'office, je fends le bois, je prends le couteau. Mieux que cela, j'obéis aussitôt, de bon matin. De bon matin, car je suis prévoyant dans la foi, prévoyant dans l'obéissance. J'ai bien écouté ce qu'il a dit, et je me saisis de tout ce qu'il a dit. C'est la seconde caractéristique d'une vraie foi, après la connaissance, la pratique prévoyante. Et puis, le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Je me suis arrêté à ce détail, parce qu'il m'impressionne. C'est facile de se mettre en route dans la foi. Vivre d'abord un premier jour, et puis vivre un second. J'imagine, le texte ne le dit pas, peut-être me prêterez-vous trop d'imagination, ou me direz-vous que j'en fais trop étalage. Mais j'imagine ce qu'a dû penser Abraham tout le long du chemin. Parce que, vous savez, quand on marche comme ça, et qu'on s'en va vers un lieu, comme souvent, alors on se met à ruminer, réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'il l'a bien dit? Est-ce que je suis pas un peu fou? Mais si c'est lui qui est fou. On en a des occasions de remettre en cause, de rentrer dans le doute, de tout remettre en question, de ne pas aller plus loin, de se laisser arrêter. Non. 3 jours. Ça, c'est la troisième caractéristique que j'appelle la persévérance de la foi. La connaissance, la pratique prévoyante, la persévérance. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Ah, Abraham aussi a eu des pieux mensonges. Nous reviendrons. Est-ce un mensonge? Et un mensonge pieux par sur le marché, puisque c'est ainsi qu'on baptise certains de nos mensonges. Pardonnez-moi, Abraham ne ment pas. C'est un homme de la vérité. Mais direz-vous, alors s'il dit « nous reviendrons », c'est qu'il n'y croit pas. Au fond, c'est du bluff. Il a l'air d'aller au sacrifice, il a l'air d'offrir son fils au sacrifice, mais il se dit « on va aller jusqu'au bout, mais ça s'arrangera ». Pas du tout. Et c'est là où l'Épître aux Hébreux est riche à entendre. Et c'est là où il nous faut saisir que souvent une parole de Dieu s'éclaire par une autre parole de Dieu. Il crut qu'il pourrait recouvrer son fils par une sorte de résurrection. Alors, quelle est la caractéristique que vous donneriez à cet aspect des choses dans cette histoire? Et je crois que Dieu nous la raconte pour que nous saisissions bien ce qu'est la foi. Eh bien, cette caractéristique, elle n'a qu'un nom, l'espérance. Et une fois de plus, c'est une espérance qui n'a rien d'un espoir. Parce qu'il dit « nous reviendrons ». Et si j'ose dire, elle a un contenu, elle a une épaisseur, elle a une densité, elle a une réalité, ce « nous », c'est lui et moi. Je leur ai offert un sacrifice, mais Dieu va le ressusciter. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Ça ne s'est jamais vu. Mais je le crois. Puisque Dieu m'a dit que de ce fils naîtrait une postérité. Donc c'est pas possible. Car Dieu ne peut pas être menteur. Donc, il y aura de la part de Dieu un acte que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas saisir. Mais je crois ce que Dieu dit. C'est l'espérance, après la persévérance, la pratique et la connaissance. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père, moi je traduirais volontiers « Papa ». Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Voilà un fils instruit des choses de Dieu. Il sait qu'on ne va pas offrir en sacrifice autre chose qu'un agneau, puisque Dieu l'a ordonné. Il est fils d'Abel et non pas de Caïn. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Le père dit la vérité. Il ne brode pas, il ne ment pas, il ne raconte pas des histoires. Il dit à son fils sa foi. Parce que s'il lui disait ce que Dieu lui a dit à ce fils ne comprendrait pas. Alors il y a beaucoup de choses que Dieu ne nous a pas dit tout de suite. Même Jésus n'a pas tout dit à ses disciples. Parce qu'il n'aurait été incapable de les saisir. Et dans la foi, il faut apprendre à croire sans nécessairement avoir tout saisi, tout compris, quand on est encore un enfant dans la foi. Mais il faut marcher avec le Seigneur, certain de sa parole, assuré que ce qu'il dit, que ce qu'il ordonne, il va nous le donner et ne nous trompera pas. Dieu se pourvoira. C'est ce cinquième aspect d'une authentique foi qui s'appelle la confiance. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il lia son fils Isaac, il le mit sur l'autel, par-dessus le bois, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais. » Je m'arrête, hein. « Je sais. » Maintenant, que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Yiré, l'Éternel pourvoira. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Oui, Dieu tient parole, Dieu tient promesse. Abraham n'a pas cru en vain, il n'a pas compris, il n'a pas saisi, il n'a pas su comment, de quelle manière, avec quelle possibilité. Mais là, c'est plus notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Mais cette caractéristique qui est ici comme enrobée dans toute cette histoire, elle est peut-être la plus importante de toutes, savoir Dieu voudrait avoir à notre égard des certitudes. Je sais. C'est Dieu qui sait. C'est pas l'homme. C'est Dieu qui sait. Et quand on a passé par la connaissance, quand on est entré dans la pratique prévoyante, quand on a de la persévérance, quand on a une authentique espérance et une authentique confiance, et qu'on va jusqu'au bout avec cela, alors vient en nous la certitude de Dieu. C'est quand même extraordinaire de penser ça et de comprendre cela. C'est que les certitudes, c'est Dieu qui doit d'abord les recevoir dans son cœur pour les communiquer. Vous mesurez le respect qu'il a pour nous et dire qu'il en est parmi nous qui pourrait encore penser que Dieu fait de nous des robots qu'il manipule. Dieu n'a jamais fait de l'homme quelqu'un d'autre que son vis-à-vis. Dieu est un Dieu d'amour. Et il veut établir avec nous des relations d'amour et de liberté. Et c'est pourquoi, alors il parle à l'homme, il indique à l'homme, il promet à l'homme, il ordonne à l'homme, mais il le laisse libre, libre, libre de vouloir, libre de croire, libre de s'engager. Et si j'ose dire, Dieu a une espérance folle à notre égard. Et il voudrait que nous comblions son espérance et que nous lui apportions la certitude qui va le mettre au large et dire « Quel amour j'ai rencontré en réponse à mon amour ». Quelle richesse d'amour j'ai rencontré en réponse à la richesse de mon amour. Il me rend la plénitude de ce que je lui avais donné. Car on ne peut rien donner de plus, dit Dieu, que son propre fils. Il en sait quelque chose. Et voici qu'il me le rend, ce que je lui ai donné. Avec la remarque ultime, avant de venir au septième, à la septième caractéristique, cette certitude qu'est cette sixième caractéristique, elle est là avec l'agneau de substitution. Il y avait un bélier que Dieu a amené et que, à ce moment même, Abraham a vu. Mais en réalité, quand Dieu, lui, dans son amour, est venu à notre secours, pour vaincre, pour triompher, pour mettre à mort notre ennemi, notre mort, eh bien Dieu est entré lui-même dans la mort. Il n'a pas été prendre un agneau nulle part. Il n'a pas été prendre un fils quelque part. En son propre fils, en sa propre vie, il a affronté la mort. Et c'est pourquoi la plénitude de la foi, la plénitude du tronc d'Abraham, elle est là, dans ce sixième aspect du sacrifice qui a, pour nous, pris la figure que vous connaissez, Jésus-Christ crucifié, la croix, le lieu de la malédiction, mais en même temps le lieu où la mort est vaincue, le lieu où Satan est défait, le lieu où Dieu nous donne rendez-vous, parce que là, la vie jaillit. La certitude, c'est cela qui doit habiter nos cœurs, c'est cela que Dieu veut mettre en nos vies. Et c'est dans la croissance de la foi, dans ce dernier acte, qu'elle s'inscrit avec la septième et dernière